لتغير المناخ كوب 27 الذي ينعقد في دورته الحالية بمدينة شرم الشيخ.
Cleaner, safer and healthier planet for all of us.
It is either a climate solidarity pact or a collective suicide pact.
C'est pas du vent.
Now we are facing a wall where sea levels are rising.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Il faut agir pour sauver la planète.
Anne-Cécile Bras.
Bonjour, nous sommes à la COP27, la 27e conférence des Nations Unies sur le climat. Elle a lieu cette année dans un lieu surprenant, Sharm el-Sheikh, en Égypte. Depuis que les Israéliens ont restitué la ville aux Égyptiens au début des années 80, Sharm el-Sheikh est devenue la station balnéaire la plus touristique du pays, une sorte de Las Vegas égyptien, où des centaines de milliers de personnes viennent chaque année profiter de séjours tout compris dans des hôtels géants. Plus de 300 hôtels répartis sur une bande d'une quarantaine de kilomètres, littéralement coincés entre la mer Rouge et le désert du Sinaï. Voilà pour le décor. Et pour parfaire ce tableau, c'est dans le centre de conférence Tonino Lamborghini, et oui, comme les voitures et la marque de luxe, que plus de 40 000 personnes discutent depuis la semaine dernière du changement climatique, de ses conséquences et surtout de comment y faire face. Un journaliste camerounais me disait hier dans les couloirs de la COP, c'est fou quand même, cela fait 27 ans que nous discutons et nous ne sommes toujours pas d'accord. C'est vrai que cela peut sembler long, mais une discussion à 195 pays, c'est compliqué. Surtout quand une partie d'entre eux, les plus riches, sont majoritairement responsables de la situation actuelle et que ce sont les plus pauvres qui en souffrent le plus. Voilà pourquoi la finance est au cœur des négociations. Il y a bien sûr besoin de montants colossaux pour aider les pays les plus vulnérables à s'adapter aux conséquences des changements climatiques et à se mettre sur la trajectoire d'une économie non polluante. Mais cet argent, c'est aussi le symbole de la justice climatique. Alors quels sont les besoins? Quelles sont les sommes sur la table? Qui paye quoi? Nous avons enquêté pour vous. Pour dresser un état des lieux de la finance climat, nous avons donné rendez-vous à Sébastien Treyère, le directeur général de l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales. Nous sommes installés dans le centre de presse de la COP avec plus de 3000 autres journalistes. C'est l'ambiance que vous entendez derrière nous. Bonjour Sébastien Treyère.
Bonjour Anne-Cécile.
Vous êtes directeur général de l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les différentes sources de financement qui existent pour que les pays du Sud puissent lutter contre le changement climatique, que ce soit pour les accompagner, pour diminuer leurs propres émissions de gaz à effet de serre ou pour les aider à s'adapter?
Alors en fait, il faut voir que la source principale dont aimeraient disposer les pays, c'est des investissements privés de leur propre pays, c'est-à-dire des gens qui sont capables de mobiliser le secteur bancaire du pays ou à l'international pour financer du développement agricole, la transformation d'une usine. Mais pour pas mal de pays africains, la difficulté, c'est que l'accès aux marchés financiers est très compliqué, le secteur bancaire est peu développé, et donc il y a besoin de beaucoup d'argent public, soit des dons, c'est-à-dire une subvention qui vient financer la clôture du projet, soit des prêts bonifiés, c'est-à-dire un prêt dont le taux est réduit parce qu'il y a de l'argent public qui est rentré dans cette discussion. Et donc c'est pour ça qu'on regarde à la fois les financements privés internes qui sont souvent très limités, financements privés internationaux et financements publics du pays ou financements publics de ce qu'on appelle l'aide publique au développement qui peuvent venir sous forme de prêts ou sous forme de dons, et qui peuvent venir de banques bilatérales, comme par exemple l'Agence française de développement, ou de banques multilatérales, comme la Banque mondiale.
Alors quand on parle d'argent privé qui vient de l'étranger, on parle de quoi ?
Alors de l'argent privé qui vient de l'étranger, ça peut être l'opérateur, un opérateur comme Électricité de France, qui vient faire de l'électrification rurale avec sa filiale au Sénégal, et qui en partie met de l'argent sur la table pour investir. Il espère bien ensuite se refinancer sur le prix de vente de l'électricité, mais enfin qui vient apporter de l'argent frais qui vient d'un opérateur économique international. Ça peut être aussi de l'accès aux marchés financiers. Par exemple en Inde, les opérateurs économiques indiens qui veulent faire la transition vers le renouvelable disent qu'ils cherchent vraiment à se financer sur les marchés financiers internationaux, mais que le secteur bancaire international est peu enclin à aller sur un certain nombre de projets en Inde pour des raisons qui sont liées au contexte spécifique, économique et politique de l'Inde.
Et quand on parle de l'argent public, majoritairement, ce sont des prêts et pas des dons aujourd'hui.
Alors ça dépend des pays, ça dépend. La Banque mondiale, c'est beaucoup de... Il y a quand même pas mal de... Par exemple, le Fonds pour l'environnement mondial qui a été créé au moment de Rio, c'est beaucoup de subventions.
En 1992.
C'est beaucoup de subventions. Dans le mode de fonctionnement français, on a effectivement beaucoup de prêts et souvent les ONG de développement disent pas assez de dons et qu'il faudrait rééquilibrer l'ensemble. Et c'est extrêmement important vu la dette des pays. Beaucoup de pays du Sud ont des niveaux de dette qui ne sont pas énormes quand on les compare aux États-Unis, mais les États-Unis, c'est la première puissance économique mondiale. Et ce qu'on appelle la soutenabilité de la dette pour des pays qui ont une économie qui est encore relativement faible, elle est très très fragile. Avec très peu de dette, on devient très vite une économie qui est mise en danger d'être considérée comme trop endettée. Et quand on est trop endetté, on ne peut plus aller s'endetter sur les marchés financiers qui ne nous font plus confiance. Donc on a aussi cette spirale qui peut se mettre en place. Et surtout, il faut regarder un peu la nature spécifique de chaque projet. Un projet d'adaptation ou un projet d'agriculture agroécologique qui fait à la fois de l'adaptation et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans un territoire où il y a beaucoup de petits agriculteurs sur des sols très dégradés au Sahel. Les retours sur investissement seront très difficiles à prouver, c'est assez risqué, il y a beaucoup de coûts de transaction. Et donc pour beaucoup d'acteurs privés, ça ne marcherait pas. En fait, il faut de la subvention pour quasiment la totalité du projet, pour qu'il se lance, etc. Et donc j'entends tout à fait, moi, pourquoi la société civile des pays du Sud et des pays du Nord dit en fait qu'il faudrait beaucoup de dons, il faudrait beaucoup plus de dons et minimiser la part des prêts.
Et puis il faut rappeler donc que les pays du Sud ne sont pas responsables des conséquences du changement climatique actuel. Alors cette dette climatique, quelque part, elle a été actée par les pays du Nord, les pays riches, puisque en 2009 à Copenhague, les pays se sont engagés à mobiliser 100 milliards de dollars par an à partir de 2020. Alors j'ai raconté récemment sur l'antenne de RFI l'origine de ce chiffre, hein, c'est l'économiste britannique Nicholas Stern qui à l'époque l'avait mis sur la table en disant que c'était 0,3% en 2009 du produit intérieur brut des pays riches. Bon, aujourd'hui, on va y revenir, ça n'est absolument pas atteint, le compte n'est, enfin, l'argent n'est pas sur la table. Dans quelle proportion ?
Alors en fait, le compte n'y est pas, c'est pas tout à fait vrai, on atteint 83 milliards de dollars sur les 100 milliards. Et donc le problème, c'est qu'on a atteint un espèce de plateau depuis 2 ou 3 ans et qu'on a l'impression de plus progresser. Tout le monde a les yeux rivés sur les États-Unis parce qu'une partie importante de ces 100 milliards est attendue de la plus grande puissance économique de la planète. Il y a différentes manières de calculer quelle serait la part juste des différents pays, mais de manière très consensuelle, tous les analystes montrent que les pays européens font plutôt pas mal leur part du trajet. Il faudrait peut-être un peu plus de dons et un peu moins de prêts, mais disons que leur part de la contribution est quand même bien apportée par les pays européens. Les États-Unis sont loin du compte. Les 11 milliards annoncés par Joe Biden sont importants pour ça, mais on n'est pas tout à fait sûr qu'avec la Chambre des représentants qu'il n'a plus, il va encore vraiment pouvoir tenir ses engagements. Donc on est relativement loin du compte. On n'est pas si loin du compte, mais on n'arrive pas à passer la dernière étape.
Mais sachant que c'était un chiffre qui était sur la table pour 2020, on est déjà en 2022 et on doit mobiliser encore plus d'argent à partir de 2025.
Exactement.
Donc pour l'instant, en termes de crédibilité, ça ne marche pas
du
tout.
C'est un problème symboliquement extrêmement grave. C'était censé être un plancher à partir de 2020 et on a du mal à l'atteindre comme un plafond. Probablement qu'en 2023-2024, on va l'atteindre. Mais en fait, ça a un caractère relativement symbolique. C'est un peu comme le doublement du financement de l'adaptation, qui est très important concrètement. Mais disons que les montants restent en fait extrêmement faibles. Et je voudrais juste souligner qu'il y a une vraie compréhension de pas mal d'acteurs dans cette COP climat, qu'on ne parle pas que de climat. Pour pas mal de pays africains, ces besoins d'investissement pour le climat, c'est aussi des besoins d'investissement tout court. Parce qu'on a une population active qui va être en croissance dans les prochaines décennies. Et donc, il faut faire de l'industrialisation pour trouver des emplois industriels à cette population active en croissance qui ne peut pas s'employer uniquement dans l'agriculture. Ça arrive au moment où ces pays ont été mis à genoux par les conséquences socio-économiques du Covid et de la guerre russe en Ukraine. Et en plus, par une série d'événements extrêmes qui leur coupent davantage les jambes. Et donc, c'est ce ciseau-là qui est extrêmement compliqué et qui montre pourquoi ces chiffres ont l'air démesurés. Mais c'est bien de ces chiffres-là dont il faut parler. C'est la question de comment est-ce que les pays les plus vulnérables, les pays les moins avancés et les pays qui commençaient à émerger économiquement sont en train, en fait, de ne pas avoir les ressources de faire leur développement économique. À l'intérieur de ça, c'est un développement économique qui doit être positif pour le climat et adapté au climat futur. Mais les montants dont on parle, c'est des montants pour le développement. Printemps, des institutions financières internationales, Banque mondiale et FMI, printemps 2023, pour avoir trouvé la solution technique et l'avoir négociée politiquement avec les grands pays de la planète.
Il y a un vrai enjeu de crédibilité géopolitique pour certains pays qui ont de longue date une relation d'aide au développement, justement, je pense, l'Union européenne avec les pays africains, où il y a par exemple les Chinois, les Russes qui arrivent sur le continent africain. Si ces engagements financiers ne sont pas honorés, il y a une perte de crédibilité et donc ça peut jouer sur les rapports entre ces pays.
Moi, je trouve que c'est très frappant de voir les pays les plus vulnérables, la première ministre de la Barbade, qui aujourd'hui ne joue pas qu'uniquement l'argument moral d'avoir été la victime de quelque chose, parce que la dette écologique ou l'argument moral des pays qui sont les victimes, ça marche relativement peu dans un monde aussi tendu tel que celui qu'on a aujourd'hui. En revanche, les mêmes pays sont en train de dire, pour certains d'entre nous, on a les ressources dont vous avez besoin pour votre économie future, hein, pour les batteries ou pour le numérique.
Oui, la République démocratique du Congo,
par
notamment.
Par exemple, et d'autres pays qui ont du lithium pour nos batteries, etc. Et puis, ils vont aussi faire, d'une certaine manière, monnayer leur vote aux Nations Unies. Le fait de ne pas s'être aligné sur la déclaration qui condamnait la Russie pour la guerre russe en Ukraine, c'est une manière de dire, on ne peut pas être vos supplétifs dans les négociations internationales, on a besoin d'avoir des preuves concrètes de ce que vous faites. Et donc, derrière l'argument moral, il y a aussi tout ce moment géopolitique très particulier qui donne beaucoup de pouvoir à des pays très faibles. Et je pense qu'effectivement, le fait que la première ministre de la Barbade qui représente les pays vulnérables ait tendu la main aux institutions, aux vieilles institutions de Bretton Woods, qui sont en fait des institutions dominées par les pays occidentaux et les pays du G7, c'est de dire, plutôt que de tout de suite aller voir la Chine pour trouver une autre solution, essayons de réformer déjà ce qu'on a sur la table. C'est aussi une manière de jouer un petit peu les différentes grandes puissances les unes contre les autres pour pouvoir obtenir le meilleur résultat. Mais je trouve que c'est intéressant et c'est donc le moment à pas rater pour les Européens, pour les Américains et pour les Japonais.
Merci Sébastien Treyer.
Merci.
There is no planet B. C'est pas du vent.
There is no planet blah.
Le magazine de l'environnement sur RFI.
Blah, 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 blah.
Des questions, des témoignages, des idées, écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Net zero by 2050, blah, 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 net zero, blah, 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 climate neutral, blah, blah, blah.
Chaque pays envoie ses négociateurs à la COP pour défendre ses intérêts. Les pays se regroupent aussi pour mieux se faire entendre. C'est le cas des pays africains qui parlent d'une seule voix, comme les petits États insulaires ou les pays les moins avancés. Et à chaque fois, il y a une personnalité qui préside ces groupes. Nous avons traversé l'immense centre de conférences pour aller à la rencontre de l'une d'entre elles. Bonjour Madeleine Diouf.
Bonjour Cécile.
Vous êtes chef de la division climat au ministère du Développement durable et de la Transition écologique du Sénégal et vous présidez ici le groupe des pays les moins avancés durant cette COP27. Quels sont les pays qui sont dans ce groupe ?
Merci Cécile pour la question. Effectivement, le Sénégal a l'honneur de présider le groupe des PMA et c'est un groupe de 46 pays. Nous avons des pays qui viennent de différents continents, notamment le continent africain, le continent, la zone asiatique, la région asiatique et la région du Pacifique avec les îles insulaires.
Quelles sont vos priorités pour ce groupe ?
Nous sommes les pays les plus vulnérables au changement climatique. Hein. Donc nous sommes aussi les pays qui émettons le moins. En tout, nous faisons moins de 1% des émissions globales de gaz à effet de serre. Donc les priorités portent autour de l'adaptation, le financement de l'adaptation et également le financement aussi des pertes et dommages. Parce que nous sommes rendus compte que réellement, déjà avec la récurrence des événements extrêmes qui se passent dans tous nos pays, donc nous commençons vraiment à subir réellement ces événements désastreux avec des catastrophes qui détruisent beaucoup dans les pays comme infrastructures. On a aussi des pertes de vie, comme vous le voyez. Donc on a des pertes aussi de terres agricoles. Donc c'est des désastres que cela crée et qui ne sont pas récupérables.
Alors en tant que présidente de ce groupe, est-ce que vous diriez que la finance est au cœur des négociations de cette COP27 ?
Oui, la finance est fondamentale parce que nous devons nous ajuster, quand je parle de l'adaptation. Nous devons également, par rapport aux pertes et dommages, quand on voit des maisons qui tombent, quand on voit des terres qui sont totalement salinisées, il y a des populations qu'il faut relocaliser avec les inondations. Donc tout cela redemande des moyens. Donc c'est pour cela que la finance est fondamentale, pour rebâtir et soutenir ces pays face à ces phénomène climatique.
Et quels sont vos revendications dans ces négociations? Qu'est-ce que vous souhaiteriez obtenir?
Nous attendons vraiment à voir ce qu'on appelle l'établissement du fonds pour les pertes et dommages, hein, prenant en charge totalement les pertes et dommages. Nous attendons que aussi le doublement de l'adaptation soit fait.
Alors le doublement de l'adaptation, ça veut dire multiplier par deux l'argent qui aujourd'hui sert au pays à s'adapter aux conséquences des changements climatiques.
Effectivement. Depuis Copenhague, il y a eu cette décision de mettre sur la table 100 milliards de dollars par an à partir de 2020. Nous sommes loin d'avoir atteint cet objectif. 2020, nous sommes en 2022. Donc 2020, on attendait, on n'a pas vu. Jusqu'en 2022, on attend. L'idée aussi, c'est ici d'avoir une feuille de route claire sur comment ces ressources vont être déployées. Le besoin est là. Les pays ont leur, ce qu'on appelle leur plan national d'adaptation. Les pays ont des besoins réels et ces ressources pourraient aider.
Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de projets d'adaptation?
Oui, il y en a des projets d'adaptation. Dans tous les secteurs que vous aurez des projets d'adaptation parce que la question du climat touche tous les secteurs. Bon, je prends le cas des inondations. On se retrouve avec des pluies à forte intensité qui s'amènent avec des volumes d'eau qu'on n'expectait pas. Donc, comment organiser l'espace pour que quand ces trous pleins d'eau arrivent, on puisse réellement les drainer et permettre que les gens puissent circuler. Hein, donc, il faut regarder aussi qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la mobilité dans une région ou une ville. Je prends également la question de l'agriculture qui est réellement importante. Quand la mer entre dans les terres et que les terres deviennent salées, c'est des terres qui sont perdues, il faut les récupérer. Ou par exemple, quand on a des saisons à forte variabilité, il faut revisiter les semences qu'on met à disposition. On parle de semences adaptées par rapport au climat.
Alors, vous parlez d'adaptation, mais vous l'évoquiez tout à l'heure, il y a aussi la problématique des pertes et dommages. Là, c'est au-delà de l'adaptation, c'est quand vraiment le pays est extrêmement impacté. Alors, on a en tête les inondations au Pakistan qui ont été terribles, mais il y a aussi les ouragans, les cyclones. On voit des inondations en ce moment au Nigeria, au Tchad, au Soudan. Qu'est-ce que vous pouvez attendre durant cette COP27 pour les fameux pertes et dommages? Parce qu'il y a un mécanisme qui existe depuis Varsovie, depuis 2013, dans ces conventions des Nations Unies sur le climat. Ça fait quand même 2013-2022. Ça fait 8 ans et il n'y a toujours rien.
Nous attendons qu'on adresse les pertes et dommages. C'est mettre un dispositif. Nous sommes rendus compte qu'effectivement, Il y a des instruments comme l'humanitaire, l'accompagnement humanitaire avec la Croix-Rouge, bon, pour le nommer. Nous avons d'autres formes d'accompagnement, l'assurance. Nous avons également d'autres formes d'accompagnement qui existent, mais ce n'est pas suffisant. Un événement catastrophique arrive, un pays est ébranlé. Le dispositif de réaction de secours doit être rapide, mais elle ne doit pas être seulement ponctuelle. Elle doit se faire dans le temps pour permettre à un pays de ressortir de cette situation qui carrément l'a totalement...
De se redresser,
c'est le mot, redresser. Donc c'est ça, c'est mettre en place ce dispositif, vu que le processus risque d'être beaucoup plus récurrent, comme le dit le GIEC, que nous ayons au niveau international ce dispositif permettant de mettre ensemble une combinaison de modèles d'instruments. C'est vrai qu'il y a de l'innovation qu'il faut faire derrière pour réellement soutenir les pays face à ces événements qui, comme on le sait, vont être présents et être récurrents.
Alors, adresser, en fait, c'est une façon anglaise de parler parce que ces négociations se font beaucoup en anglais. Ça veut dire faire en sorte que ce mécanisme ait une réalité au sein vraiment de la Convention des Nations Unies sur le climat. Alors, vous suivez ces négociations depuis 20 ans. Les promesses des pays industrialisés responsables du changement climatique n'ont pas été tenues, que ce soit en termes de réduction d'émissions de gaz à effet de serre ou de mécanismes financiers. Pourtant, vous êtes toujours là. Vous portez la voix des pays les plus vulnérables ici à cette COP27. Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas découragé et que vous êtes toujours prête ici à passer vos nuits, à négocier, à porter la voix de ces pays en espérant obtenir des avancées?
Merci, je pense que nous sommes tous là hein, parce que nous savons que nous devons protéger cette planète ensemble. Nous sommes tous là parce que chacun d'entre nous a son rôle à jouer, vous, en communiquant, moi en négociant et en faisant connaître, hein, donc avec nos collègues des pays les moins avancés, les difficultés que nos communautés vivent. Que tout le monde puisse réellement savoir que c'est une urgence, c'est une réalité. Je pense que maintenant tout le monde le sait. Donc autant les scientifiques nous alertent, font les études qu'il faut, nous proposent des solutions, autant nous, en tant que négociateurs des PMA, nous devons plaider la cause de nos communautés. Ensemble, on dit c'est une responsabilité commune, mais différenciée. Et je crois que c'est ça le mot.
Est-ce que vous avez l'impression que ces conséquences des changements climatiques qui sont de plus en plus présentes dans tous les pays du monde, et surtout pour les pays les plus vulnérables, sont vraiment dans la tête des gens ici, dans les négociations, et ne s'arrêtent pas à la porte?
Non, ils ne s'arrêtent pas à la porte, parce que même si on sort d'ici, la réalité, on le retrouve sur le terrain. Et notre objectif, c'est que également, quand même, c'est de faire de sorte que des projets soient exécutés dans les pays respectifs. C'est que les communautés sentent que les responsables de ces questions au niveau des pays sont aussi en train de faire de leur mieux pour que les ressources financières soient mises en place, pour qu'aussi le dispositif national de planification, d'intégration du climat soit effectivement aussi effectif. Parce que comme je le dis, les changements climatiques nous amène à revoir notre trajectoire de développement. Nous sommes tenus d'intégrer dans nos trajectoires de développement la dimension risque climatique et de pouvoir également aller jusqu'à comment la mettre en œuvre après cette planification. Donc c'est tout cet exercice-là qui est sur la table.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
صوت عالي كتير شوارع فاضي من الناس وتغير صوت الريح وبحرك يلي صار مهجور وشمسك يلي طفى
du groupe Tayar chante le son du vent dans les montagnes du mythique désert du Sinaï, un désert que je vois de ma fenêtre puisque nous sommes à Sharm el-Sheikh pour la 27e conférence des Nations Unies sur le climat. Vous l'avez compris, la finance est au cœur des négociations, mais comment évaluer les besoins? Eh bien, il y a un homme qui sait faire cela, c'est l'économiste britannique Nicholas Stern. C'est lui qui a élaboré en 2009 le chiffre de 100 milliards de dollars qui est aujourd'hui l'objectif à atteindre. Il est donc extrêmement sollicité durant les COP, mais il a accepté de nous consacrer quelques minutes et de venir nous voir au centre de presse. Bonjour Nicolas Stern.
Bonjour, bonjour.
Vous êtes économiste, vous avez été vice-président de la Banque mondiale au début des années 2000. Vous avez été le bras droit du ministre britannique des Finances, Gordon Brown, qui vous a commandé en 2006 un rapport qui vous a rendu célèbre, puisqu'il chiffrait pour la première fois les implications économiques du changement climatique. 16 ans plus tard, avec un groupe d'experts indépendants que vous présidez, vous publiez un nouveau rapport sur le financement de la lutte contre le changement climatique. Alors ce rapport est intitulé « Le financement de l'action climatique, accroître les investissements pour le climat et le développement ». Il vous a été demandé par la présidence britannique de la COP26 et par la présidence égyptienne de la COP27. L'objectif de ce rapport est contenu dans son titre « Il faut accélérer ».
Le rapport que j'ai co-présidé avec l'économiste camerounaise Vera Songwe et dont la rédaction a été dirigée par l'économiste indien Amar Bhattacharya a été publié la semaine dernière. Ce rapport répond à la question suivante. Quel type de financement seront nécessaires pour concrétiser l'accord de Paris obtenu en 2015 ? Pour le savoir, nous devons regarder les investissements nécessaires et nous avons examiné cela dans plusieurs grands domaines. La transition énergétique est celle qui implique le plus d'investissements. Mais nous savons que ce n'est pas seulement une question de réduction des émissions. C'est aussi une question, et c'est absolument explicite dans l'accord de Paris, d'adaptation et de résilience, de pertes et de dommages irréversibles, et aussi de capital naturel. Nous avons examiné les chiffres concernant les différents types d'investissements, les lieux, les secteurs, la géographie, en nous appuyant sur le travail que nous avons effectué au cours des trois dernières années. Et nous sommes arrivés à la conclusion que le niveau global d'investissement dans les économies en développement, en dehors de la Chine est extrêmement importante, mais elle n'a pas besoin de financement pour le climat, ce montant donc s'élèvera à environ 2 400 milliards de dollars par an en 2030. C'est le montant de l'investissement annuel dans ces domaines qui sera nécessaire. J'ai parlé de 2030, mais le chemin à parcourir jusqu'en 2030 est évidemment très important, car cette décennie est elle-même décisive. Dans la plupart des pays, la majorité des investissements sont financés en interne. Mais certains pays en développement rencontrent plus de difficultés que d'autres. Nous estimons donc qu'environ la moitié, peut-être un peu plus de la moitié, sera financée par les pays eux-mêmes. Un pays comme l'Inde, par exemple, financera la plupart de ses investissements. Mais d'autres pays, qui sont dans une situation plus difficile, devront avoir recours à l'aide extérieure. Au total, nous estimons qu'environ 1 000 milliards de dollars de financement externe seront nécessaires. Alors, d'où viendront-ils ? Premièrement, la majorité viendra du secteur privé qui investira dans de nombreux domaines qui seront rentables. Deuxièmement, il y aura les apports des banques de développement multilatérales. Et troisièmement, les sources financières qui n'augmentent pas les dettes des pays, comme les aides bilatérales, les droits de tirage spéciaux du FMI, la philanthropie, les marchés volontaires du carbone et d'autres sortes de dispositifs. Donc c'est la réponse à la question. Il est très important que ces différentes sources s'articulent ensemble parce que le secteur privé ne fera pas tout seul ses investissements si c'est trop risqué. Ils vont chercher à partager les risques. Le rôle des banques multilatérales de développement est ici crucial. Et en regardant les chiffres, nous sommes arrivés à la conclusion qu'elles devront tripler leurs investissements durant les 5 prochaines années. Nous détaillons dans notre rapport comment cela peut être fait. Et c'est parfaitement possible.
Vous écrivez que les principales priorités d'investissement doivent englober la transformation du système énergétique, c'est vraiment la clé, mais répondre aussi à la vulnérabilité croissante des pays en développement au changement climatique et réparer les dommages causés au capital naturel et à la biodiversité. Alors après la crise du Covid, dans le contexte aussi de la guerre en Ukraine qui démontre notre dépendance aux énergies fossiles, est-ce que vous pensez que votre rapport va être suivi?
I think that it's perfectly possible to follow the recommendations of our report.
Je pense qu'il est parfaitement possible de suivre les recommandations de notre rapport. Mais il est surtout nécessaire de le faire parce que nous devons tenir nos engagements pris à Paris. Et l'arrivée de cette crise énergétique qui découle de la guerre avec l'Ukraine souligne encore plus fortement que nous devons nous éloigner des combustibles fossiles. D'où vient la crise énergétique ? Eh bien, elle vient d'une baisse très rapide, pas énorme, mais rapide et significative, de l'approvisionnement d'une région particulière du monde. Cette crise provient donc de notre dépendance aux combustibles fossiles, qui sont fournis de manière significative par des régions instables du monde. Nous avons vu que de très petites baisses dans cet approvisionnement peuvent avoir des effets très importants sur le marché. La réponse à cette situation est la suivante. Ne soyez pas dépendants des combustibles fossiles. Et nous ne sommes pas obligés d'être dépendants. Nous savons désormais que c'est plus sûr en termes de sécurité énergétique de dépendre des énergies renouvelables et en plus c'est moins cher. Donc c'est moins cher, plus sûr et ça ne nuit pas à notre santé. Il semble absolument clair que nous devrions aller plus vite et plus fort dans cette direction en nous éloignant des combustibles fossiles. Je pense que ces arguments sont de mieux en mieux compris. Par exemple, la stratégie de l'Europe est très claire à ce sujet. Les États-Unis avancent beaucoup plus vite maintenant que la loi sur la réduction de l'inflation a été adoptée. L'Inde avance très vite. Il y a donc des signes très positifs de progrès dans la création de sources d'énergie renouvelable. Mais ce n'est pas assez rapide. C'est très important de le comprendre. Ce rapport a pour but de générer des fonds qui peuvent aider à accélérer ces investissements.
Alors, pas assez rapidement, c'est le cas de le dire. Il y a Urgewald, les Amis de la Terre France, Reclaim Finance et 36 organisations africaines qui ont publié cette semaine un rapport sur qui finance l'expansion des combustibles fossiles en Afrique. Et depuis 2019, 98 milliards de dollars ont été investis pour développer de nouveaux projets pétroliers et gaziers dans 48 pays africains. Des banques françaises comme BNP Paribas ou Crédit Agricole, qui font du greenwashing ici, financent les projets d'entreprises comme Total Energy, qui représentent 14% de l'expansion de ces projets sur le continent. Là, nous sommes loin de la transformation du système énergétique que vous appelez de vos voeux dans votre rapport.
We do not need more oil and gas in the world.
Nous n'avons pas besoin de plus de pétrole et de gaz dans le monde. Nous avons besoin d'une nouvelle répartition à la suite de la guerre qui a causé une très courte baisse des approvisionnements. Mais à moyen terme, c'est-à-dire dans 5, 10 ou 15 ans, nous n'aurons plus besoin de plus de combustibles fossiles. Nous nous en éloignons déjà très rapidement. Mais malheureusement, dans cette crise, les fournisseurs de combustibles fossiles ont fait preuve d'opportunisme en essayant d'insinuer que ce dont nous avons besoin maintenant, c'est de plus d'exploration et d'extraction de combustibles fossiles à moyen terme. C'est faux. Nous n'en avons pas besoin. Nous devons juste gérer les 2 ou 3 prochaines années. Il se peut que nous devions garder certaines centrales à charbon ouvertes un peu plus longtemps que nous l'aurions souhaité. Nous devrons peut-être extraire du pétrole et du gaz de certains gisements existants un peu plus longtemps que prévu. Mais de nouvelles explorations et de nouvelles sources ne sont absolument pas nécessaires. L'Agence internationale de l'énergie a été très claire à ce sujet. Et dans ce contexte, quelle est la position de l'Afrique ? Il est évidemment compliqué pour les pays riches de développer massivement leurs propres réserves de combustibles fossiles et de dire à l'Afrique qu'elle ne peut pas le faire ou qu'elle ne doit pas le faire. Quelle est la réponse à cette situation ? Eh bien, nous la connaissons. L'énergie du futur en Afrique, ce sont les énergies renouvelables, en particulier le solaire. Le défi est donc de soutenir l'Afrique et de la soutenir à grande échelle dans le développement des énergies renouvelables. Si le coût du capital à investir dans le solaire n'est pas trop élevé, c'est l'énergie qui sera la plus rentable à développer. Pour l'instant, l'utilisation de l'électricité en Afrique est minuscule et elle a donc besoin de se développer très rapidement. La bonne chose à faire est donc que les pays riches, au sein des agences de financement, réduisent le coût du capital pour le solaire. Si le coût du capital est de 6 ou 8%, le solaire bat toutes les énergies fossiles. Mais s'il est de 15%, ce n'est pas le cas. Parce que pour le solaire, il faut investir au début. Mais ensuite, le soleil qui brille ne vous coûte rien. Alors que si vous investissez dans les combustibles fossiles, vous devez aussi investir au départ dans des infrastructures. Mais vous devrez en plus payer le fioul dont le prix est très volatile. Il est donc crucial d'apporter à l'Afrique ce type de capital à faible coût qui peut permettre l'expansion du solaire. Nous ne pouvons pas laisser l'Afrique continuer à dépendre des combustibles fossiles en ne lui apportant pas ce type de financement. Mais si nous le faisons, le futur de l'énergie en Afrique est très attrayant.
Mais il y a des pays africains, je pense à la République démocratique du Congo par exemple, qui réclament le droit d'exploiter ces énergies fossiles. Ce discours est encore sur la table aujourd'hui.
C'est vrai que les pays ont ce droit. On ne peut pas leur refuser, mais ce qu'on peut leur dire, c'est que c'est un très mauvais investissement. Si vous investissez maintenant et que vous obtenez un résultat dans 10 ou 15 ans, les prix du pétrole et du gaz seront beaucoup plus bas. C'est donc très probablement un mauvais investissement. Si vous regardez en arrière, dans les années 70, le prix du pétrole était très élevé. Mais au milieu des années 80, il est descendu à 20 dollars le baril. Et il est resté comme ça pendant 15 ans. Ces investissements dans l'exploitation des énergies fossiles prennent 10, 15 ou 20 ans. Et d'ici là, ils ne seront plus rentables. Cela va devenir de très mauvais investissements. Pourquoi ne pas investir dans les technologies du futur ? Donc nous ne nions pas ce droit à l'exploitation, mais nous devrions dire que ce choix sera un mauvais choix. Par contre, investir dans le solaire sera un très bon investissement, à condition que le coût du capital soit vraiment réduit. C'est une condition majeure et c'est quelque chose sur lequel les pays riches peuvent vraiment faire la différence, particulièrement en travaillant avec les banques multilatérales de développement qui peuvent rendre le coût du capital beaucoup moins cher pour les investissements dans les renouvelables.
مش راضية بالحاضر مع انه بيسعني ونجوم السما بتدور بصفى للحياة والليل والكون بيمنعني
La voix envoûtante de la chanteuse égyptienne Dina El Ouedidi dans C'est pas du vent sur RFI, une chanson choisie par François Porcheron parce que nous sommes en Égypte à Sharm el-Cheikh à l'occasion de la 27e conférence des Nations Unies sur le climat, la COP27. Les négociations sont tendues ici, notamment sur le sujet de la finance. Et il y a un mécanisme qui cristallise toutes les attentes, c'est le fonds vert. Pour mieux comprendre son fonctionnement et répondre aux multiples critiques dont il est l'objet, nous sommes allés à la rencontre de son directeur exécutif. Bonjour Yannick Lémarec.
Bonjour.
Vous êtes le directeur exécutif du Fonds vert depuis 2019. Ce fonds, c'est le mécanisme financier de l'Organisation des Nations Unies pour le climat qui a pour objectif de transférer des fonds des pays les plus industrialisés vers les plus vulnérables. Sa création a été décidée à Copenhague lors de la 15e conférence des Nations Unies sur le climat en 2009. Il a été officiellement lancé en 2011 lors de la COP17 à Durban en Afrique du Sud. Alors une question toute simple. D'où vient l'argent du Fonds vert ?
L'argent du Fonds vert vient des contribuables de tous les pays bailleurs de fonds. Actuellement, c'est 34 pays.
Alors, ces 34 pays, en gros, qui sont-ils ?
Presque tous les pays de l'OCDE, mais vous avez aussi plusieurs pays en voie de développement qui contribuent, comme par exemple l'Indonésie. Mais le plus gros bailleur de fonds pour cette recapitalisation 2020-2023, c'est l'Angleterre, suivi du Japon, suivi de la France, de l'Allemagne, et de la Suède et de la Norvège.
Et pas les États-Unis, ça a été l'un des gros problèmes pour le Fonds vert ?
Non, les États-Unis ont décidé de ne pas participer à la première recapitalisation pour 2020-2023. Les États-Unis ont contribué 1 milliard de dollars lors de la capitalisation initiale en 2014-2015.
Et alors, est-ce que vous pouvez clarifier le fait qu'on accole toujours au Fonds vert les 100 milliards de dollars par an qui devait être dirigé vers les pays les plus vulnérables à partir de 2020. Il faut clarifier cela parce que le fonds vert et les 100 milliards de dollars, en fait, ce n'est pas la même chose.
Oui, ce n'est pas du tout la même chose. Le fonds vert, c'est 2,5 milliards de dollars par an. Ce n'est pas 100 milliards de dollars. On représente à peu près 3% de tous les financements climatiques sous la COP. 0,5% des investissements climatiques totaux et à peu près 0,1% des besoins. Et c'est important parce que souvent, nous faisons face à des pays frustrés parce qu'ils ont l'impression que c'est très difficile d'accéder à ces 100 milliards. Moi, j'ai souvent eu des représentants politiques du gouvernement qui me disaient « Mais c'est très difficile d'accéder à vos 100 milliards de dollars. » Et donc souvent, il faut que j'explique « Ben oui, c'est les 100 milliards de dollars, c'est pas le fonds vert, c'est tout l'engagement. » Donc nous sommes un des mécanismes, mais comme nous sommes le mécanisme principal de la Convention sur les changements climatiques, souvent les 100 milliards nous sont associés.
Alors, vous disiez, nous ne correspondons qu'à 0,1% des besoins, c'est quand même extrêmement peu. Où va l'argent du fonds vert ?
Donc, ce que nous essayons de faire, c'est d'être une goutte d'eau très puissante. C'est d'utiliser les deniers publics de façon extrêmement catalytique.
Et ça veut dire quoi ?
Ben, les banquiers ne peuvent pas gérer l'incertitude. Par contre, ils gèrent très bien les risques. Ils peuvent établir un prix pour les risques. Donc, ce que nous faisons souvent, c'est que nous dérisquons. On peut dérisquer en simplifiant le cadre réglementaire. On peut dérisquer, par exemple, en donnant du financement concessionnel. Pour un fonds en capital privé, on peut, par exemple, fournir un investissement de première perte. Donc, nous sommes les premiers à perdre notre argent si ça ne va pas bien. Et donc, l'idée, c'est de dérisquer la première application à taille commerciale. Comme ça, si vous avez été couronné de succès, les banquiers peuvent jeter un coup d'œil au projet, parce qu'il y a un exemple, il y a un précédent, et dire, bon, en fait, là, ce type de projet, ça correspond plus ou moins à mon type de risque, donc je suis prêt à vous donner un prêt à, disons, 8%, alors que sans aucun précédent commercial, ça serait peut-être 18% et le projet, ce n'est pas bancable.
Alors, quel type d'innovation, par exemple, le fonds vert a accompagné ?
Ça va dépendre. Dans certains cas, on peut parler d'une technologie qui est déjà mature dans des pays développés, solaire ou éolien, mais qui n'a pas encore été mise en œuvre dans, disons, un marché émergent. La technologie que vous avez dans un pays qui marche bien peut parfaitement ne pas marcher dans un autre pays. Donc, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on travaille avec les gouvernements que nous servons pour adapter une technologie à un nouveau type de marché. Beaucoup des solutions nécessaires pour les pays en voie de développement devront être développées dans les pays en voie de développement. Parce que souvent, ces solutions ne sont pas nécessaires dans les pays développés. Donc, personne ne va investir du temps et de l'argent pour les développer. Et par exemple, dans ce cas-là, ce que nous faisons, c'est que nous aidons les innovateurs des pays en voie de développement à passer d'une idée à une solution pratique.
Alors, les pays africains sont très critiques vis-à-vis du fonds vert parce que, comme vous le disiez, il y a beaucoup d'attentes. Je vous propose d'écouter ces propos recueillis par Charlotte Cosset.
Première difficulté, obtenir l'accréditation pour être porteur de projet. Alamdou Dorsouma, le directeur en charge du département fonds vert et climat de la Banque africaine de développement.
À ce jour, malheureusement, beaucoup de pays africains se trouvent dans la difficulté justement d'abord de se faire accréditer, ensuite de développer des propositions de financement qui soient crédibles et bancables, sans même parler des opportunités de mettre également un financement de leur côté sur la table et attirer d'autres financements. Donc voilà un peu résumé la situation que nous, on observe sur le terrain.
Des temps d'attente parfois très longs.
Effectivement, pour mettre en place tous les outils pour être accrédité, ça peut prendre jusqu'à 5 ans.
Deuxième difficulté, réussir à porter des projets qui soient ensuite validés par le Fonds vert. Charme Beau est le directeur général du Centre de suivi écologique au Sénégal, la première institution à avoir été accréditée.
Moi, ce que j'ai négocié, c'est un appui technique à travers des institutions comme GCF eux-mêmes et le Global Climate Alliance, l'Alliance mondiale pour le climat, pour qu'ils nous aident à avoir des ressources financières pour employer des experts qui peuvent te faire des profils et des projections climatiques très précises, des analyses d'impact et de vulnérabilité dans le secteur, une quantification de l'impact. Il y a beaucoup d'exigences pour pouvoir donner la preuve que ce projet est un projet transformationnel. Et ces exigences techniques, souvent, font défaut. Et on fait recours à des bureaux d'études, on fait retour à des experts. Il y a beaucoup de réunions techniques qui doivent se tenir avant de stabiliser une proposition qui réponde aux critères d'évaluation du fonds vert.
Mais une fois le dossier validé, reste encore à obtenir les fonds. Selon un récent rapport, moins de 10% du montant total approuvé par le fonds vert ces 5 dernières années pour les pays les moins avancés a été décaissé.
Yannick Lemarec, vous êtes directeur exécutif du Fonds vert. Comment est-ce que vous répondez à ces critiques ?
La première, c'est l'accréditation. Donc l'idée, c'est que le Fonds vert n'est pas une nouvelle agence, une nouvelle banque de développement, n'est pas une nouvelle agence technique, que nous soyons un partenariat, qu'on travaille au travers d'agences et que nous cofinançons leurs projets. Ces agences doivent être accréditées au niveau de leur expertise climat, doivent être accréditées au niveau de tout ce qui est protection sociale, environnementale, gestion transparente des deniers publics, etc. Le processus d'accréditation est en effet assez lent. L'une des raisons, c'est parce que nous avons déjà 114 agences accréditées. Et on a actuellement 140 agences qui sont en attente d'accréditation. C'est à peu près 30 à 40 projets par an que nous finançons. Donc en règle générale, nous avons maintenant 3 agences par projet que nous pouvons financer. Donc là, ce que nous, on a proposé à notre conseil d'administration, pour que les gens n'aient pas à attendre l'accréditation avant de pouvoir préparer un projet, c'est de mettre en place un système parallèle d'accréditation projet, où vous pouvez parfaitement postuler pour être accrédité, mais vous pouvez immédiatement commencer à développer votre projet. Maintenant, l'avantage d'avoir 114 agences accréditées qui vont des plus grosses banques commerciales au monde, du genre BNP Paribas, Crédit Agricole, à des organisations de la société civile comme WWF, Conservation Internationale, qui peuvent travailler au niveau local, c'est que ce sont souvent des partenaires qui ont une très forte expertise pour développer des projets commerciaux, qui ont une très forte expertise pour développer des projets de développement.
Voire une expertise pour développer des projets en lien avec les énergies fossiles, comme BNP Paribas que vous citiez. Donc il y a des paradoxes dans cette transition écologique.
Mais donc pas forcément une expertise pour développer des projets climat. Donc souvent, un de nos rôles, c'est de développer cette expertise. Et après, le troisième point, c'était le transfert des capitaux.
Oui, c'est trop long.
Et en effet, c'était bien, bien trop long. Le Fonds vert, pendant ces 3 premières années, a dû se construire en même temps qu'il approuvait des projets. Et donc, souvent, ça s'est traduit par des très forts retards. Et donc, ça prenait quasiment 2 ans entre le moment où notre conseil d'administration approuvait un projet et au moment où on avait notre décaissage. Aujourd'hui, on en est à moins d'1 an. Et le record au niveau mondial, c'est 35 jours. Donc ça, c'est un des points où on peut faire des très, très gros progrès rapidement dans les 2-3 années qui viennent.
Alors, selon une étude de Climate Analytics, en 5 ans, moins de la moitié des projets proposés par les pays les moins avancés ont été approuvés. Comment est-ce que vous expliquez cela ?
C'est un assez fort pourcentage. 50%,
c'est
beaucoup.
Positif, en fait.
Oui, parce que nous avons pour mission de financer l'atténuation à 50% et l'adaptation à 50%. Et la moitié de ces 50% pour l'adaptation doivent être alloués aux pays les plus vulnérables. Donc pays africains, pays les moins avancés, petits États insulaires. Actuellement, 65% des fonds d'adaptation sont alloués aux pays les plus vulnérables. Les PMA, c'est près d'un tiers. Bien que nous soyons un fonds climatique, nous allouons actuellement en pourcentage plus que l'aide au développement au PMA.
Merci Yannick Lemarec. C'est la fin de cette émission. Merci à François Porcheron, fidèle compagnon, pour sa réalisation. Demain, nous vous expliquerons tout sur un autre sujet très controversé, les marchés de crédit carbone. Et nous vous emmènerons plonger dans la mer Rouge où les coraux résistent exceptionnellement bien au réchauffement climatique. D'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Et à demain, même planète, même heure.